projection privée.
Bonjour, aujourd'hui en direct du Salon du Livre, nous allons parler bien entendu d'un livre, remarquable de Marguerite Chabrol qui s'appelle « De Broadway à Hollywood » et qui est aux éditions du CNRS. Marguerite Chabrol est professeure d'études cinématographiques à Paris 8. Elle est déjà co-auteur avec Tiphaine Carcinti d'un autre livre qui parle aussi du théâtre. Théâtre et cinéma, le croisement des imaginaires au Presse universitaire de Rennes. Et ce nouveau livre qui est, à mon avis, un livre important parce qu'il traite d'abord d'un sujet passionnant, mais aussi parce qu'il est le premier vraiment à le traiter de façon extrêmement exhaustive. C'est donc ce « De Broadway à Hollywood », c'est-à-dire les rapports entre le théâtre de Broadway et le film américain, et en particulier dans cette période très importante qui a vu la naissance du son, c'est-à-dire 1930, jusque environ 1965, quand, selon vous, Marguerite Chabrol, le système de censure s'est un peu effondré, on pourrait dire comme film charnière qui a peur de Virginia Woolf. Voilà, donc... Parlons déjà de cette influence qu'a pu avoir le théâtre de Broadway et toutes les adaptations. Vous traitez de 184 films, je crois, sur un total de 829. Il y a eu 829 films pendant cette période qui ont été adaptés de Broadway. Donc il y a eu une influence réelle de ce théâtre sur le code de censure.
Alors oui, il y a beaucoup de questions. Alors 800 films, peut-être qu'il y en a encore plus. Ce sont les données de l'American Film Institute qui estiment que ça représenterait au total entre 30 et 66, cette frange-là de la production américaine. En regardant voilà, ces 180 films, j'ai trouvé que ça donnait déjà un échantillon représentatif de ce qui pouvait se faire à Hollywood à partir des spectacles de théâtre de Broadway, en couvrant à peu près toute la période et en parlant surtout des plus gros succès, c'est-à-dire des spectacles qui avaient une visibilité et qui avait donné quelque chose d'assez significatif au théâtre.
Les succès, c'est 500 alors, représentations.
Voilà, en général, au-dessus de 400-500 représentations, ça veut dire que le spectacle a été joué donc au moins plus d'un an, sinon, si ce n'est deux et plusieurs saisons. Donc ça veut dire que les gens ont pu le voir, que généralement il y a eu des tournées ensuite, qu'il a eu une certaine répercussion, par exemple par des reportages dans la presse ou des émissions de radio. Donc il existe dans la culture populaire, en quelque sorte. Donc je ne suis pas allée chercher des raretés, mais plutôt ce qui représentait le théâtre dominant dans la période, dans les 3-4 décennies que j'ai pu étudier. Et donc vous parliez de la question de la censure. Le point de départ en fait de tout ça, c'est il y a une certaine évidence à regarder comment les choses passent du théâtre au cinéma. Et en même temps, il y a une énorme différence et une énorme contrainte qui est que le théâtre est considéré comme un art, donc bénéficie selon la protection de la, selon la Constitution américaine de la protection du Premier Amendement et d'une liberté d'expression qui est elle aussi quelquefois, ils se modèrent quelquefois en fonction des problèmes de sujets jugés sensibles, mais en tout cas ils ont la liberté d'expression alors que le cinéma ne l'a pas et qu'à partir de 1930 donc est écrit ce qu'on appelle le Code Hays, qui est plus exactement le code de production, ce système d'autocensure dont se dotent les studios, et qu'à partir de 1934 donc il est appliqué strictement. Donc on peut pas envisager le passage de l'un à l'autre sans se demander ce qui s'est passé au milieu, même si ce n'est pas le seul enjeu évidemment de l'adaptation des pièces, qui sont aussi des choses d'ordre esthétique ou même commercial à côté. Mais en tout cas la censure était un point d'entrée qui m'a semblé un peu incontournable.
En même temps, c'est vrai que la censure est beaucoup plus sévère au cinéma parce que c'est un spectacle de masse, alors que le spectacle de Broadway, même si les places sont beaucoup moins chères qu'aujourd'hui, comparativement, on peut aller au théâtre. Aujourd'hui, à Broadway, c'est hors de prix. C'est souvent des comédies musicales, d'ailleurs. La censure est beaucoup plus sévère, évidemment, pour les adaptations qui vont être faites.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une contradiction. C'est-à-dire que si le cinéma est censuré, c'est effectivement que tout le monde doit pouvoir y aller, donc que les représentations ne doivent surtout pas faire dévier ou mal interpréter les choses à un certain nombre de gens. Mais en même temps, le théâtre représente malgré tout l'idée qu'on peut proposer un modèle artistique qui pourrait aussi avoir des valeurs éducatives. C'est-à-dire le code de production au cinéma est écrit aussi dans une sorte d'idéal d'éducation des masses en quelque sorte, en leur proposant des films de qualité qui pourraient donc s'appuyer sur le théâtre. Ce qui m'a intéressé, c'est cette espèce de paradoxe dans le fait que le théâtre représentait à la fois une sorte de légitimité, quelque chose qui pouvait répondre aux attentes du code de production en proposant des productions de prestige, Et en même temps, évidemment, les sujets tels qu'ils étaient abordés au théâtre ne répondaient pas du tout aux attentes minimales de ce code de production.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on assiste tout de même dans cette dualité Broadway-Hollywood à une opposition côte Est, intellectuelle, artistique, tournée vers l'Europe, et côte Ouest, purement américaine, qui représente justement Hollywood, et également cette opposition qui n'était pas tellement pratiquée en France entre ce que les Américains appellent le highbrow, c'est-à-dire des sources plus ou moins intellectuelles ou de réflexion, etc., et le lowbrow, qui est le spectacle populaire. Aujourd'hui, on dirait la bande dessinée, les récits de science-fiction, les polars, etc.
C'est un des clivages fondamentaux de la culture américaine aussi, cette séparation entre les deux côtes dont chacune représenterait un modèle culturel. On en retrouve aussi aujourd'hui un certain nombre de traces. Mais c'est vrai que ce qui est frappant, c'est que Broadway a un héritage qui est très lié à l'Europe, notamment parce que c'est aussi un univers culturel qui est jeune au XXe siècle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 400 ans de théâtre derrière au moment où le cinéma s'empare des pièces. Le théâtre américain, il se construit à partir de la fin du 19e, mais en gros, il devient vraiment un lieu de culture nationale dans les 30 premières années du 20e siècle. C'est-à-dire, quand on arrive en 1930, là où commence le livre, le théâtre de Broadway commence tout juste à avoir une identité propre et à être constitué. Et évidemment, du coup, il emprunte à l'Europe, à l'idée qu'il a, il doit beaucoup à des dramaturges anglais, par exemple. Il est aussi lié à un certain nombre d'acteurs qui ont fait des tournées par Londres, enfin, donc qui ont une connaissance du West End londonien et d'un endroit qui est aussi un endroit légitime. Et du coup, les milieux du cinéma de l'autre côté, enfin, effectivement, on se moque beaucoup d'ailleurs à Broadway des milieux du cinéma en représentant le cinéma comme le spectacle qui prend les gens pour des imbéciles. Enfin, ça, c'est un thème de la comédie de Broadway qu'évidemment on ne voit plus dans les films, mais l'idée que le cinéma se moque de ses spectateurs et a tendance à tout supprimer, tout aseptiser parce qu'on ne fait pas appel à l'intelligence des gens, c'est un stéréotype de la comédie théâtrale.
Alors, ce qui est également intéressant, c'est de voir la différence entre le jeu théâtral à Broadway et puis le cinéma, parce que le jeu au théâtre, c'est plus extériorisé, on joue pour le troisième balcon, pour le quatrième balcon, alors qu'au cinéma, on est proche de la caméra, etc., et il y a une tradition du cinéma américain, on s'en rend compte quand on le compare au cinéma français dans les années 30, le cinéma français est très proche du théâtre dans le jeu des comédiens, je pense à des grands acteurs comme Louis Jouvet, qui tout de même vraiment disent leurs textes avec beaucoup plus d'insistance par rapport à des acteurs comme James Stewart, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que des gens comme James Stewart ou après la guerre comme William Holden, également aussi James Stewart, bien sûr, qui sont des acteurs de théâtre sur scène, en fait, ils ne sont pas au cinéma des acteurs théâtraux.
Alors c'est vrai qu'il y a au cinéma des acteurs qui ont une certaine neutralité, ce qui est un peu la dominante à Hollywood, où l'approche de l'acteur est souvent plus iconique qu'en termes de jeu et de savoir-faire. Donc il n'y a pas besoin d'être un comédien pour être une star de cinéma. Donc c'est vrai qu'au cinéma, on voit assez bien quels sont les acteurs dont on devine qu'ils viennent du théâtre parce qu'ils ont quelque chose de démonstratif. Et dans les exemples que vous donnez, on pourrait ajouter Henry Fonda aussi, qui est un petit peu dans la même tradition d'acteurs qui ont une formation, une expérience sur les planches, mais qui se retrouvent en fait avoir le même statut de star de cinéma que d'autres qui ont un jeu extrêmement mesuré, neutre, etc. Et donc, peut-être que ce qui est significatif, c'est qu'au théâtre, tous les acteurs ne jouent pas forcément de façon hyper démonstrative non plus. C'est peut-être plus vrai des actrices, le stéréotype de la diva, la grande diva de Broadway, dont certaines stars de cinéma comme Bette Davis, par exemple, sont des héritières, même si elles n'en sont pas elles-mêmes directement originaires. Mais les acteurs que vous citez, Holden et Stewart, ont sans doute très bien fonctionné dans ces adaptations-là. Ils sont dans une bonne partie des films l'un ou l'autre. Peut-être parce qu'il représente aussi ce compromis, c'est-à-dire savoir travailler l'interaction, le jeu collectif, dire malgré tout le texte, comme savent le faire les comédiens de théâtre, et en même temps qu'ils ont la forme d'iconicité qu'on attend d'une star de cinéma, ce qui fait qu'ils fonctionnent parfaitement bien dans ce type de rôle.
Alors Marguerite Chabrol, tout à l'heure vous signaliez justement le côté culturel du théâtre, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que des metteurs en scène de cinéma se servent de la réputation de l'auteur de théâtre pour promouvoir leurs propres films, et même des gens aussi importants que Lubitsch. Par exemple, Lubitsch, quand il tourne Sérénade à Troyes, c'est une pièce de Noël Coward, il met en avant le nom de Noël Coward, comme si Lubitsch, pour nous ça paraît aujourd'hui bizarre parce qu'on connaît beaucoup plus Lubitsch que Noël Coward, mais il se sert de Noël Coward pour lancer son film sur les écrans.
Oui, en fait, l'auteur de théâtre, c'est pas forcément un rôle littéraire pour le cinéma, c'est un argument de marketing très souvent. C'est-à-dire que la pièce que vous citez comme exemple, elle a été intégralement réécrite pour le film. Je crois qu'il en reste quasiment pas une réplique dans la version finale du film, pour des raisons de registre de langue essentiellement. Et du coup, un des calculs que fait Lubitsch, qui est un excellent producteur autant qu'un réalisateur, c'est de comprendre la caution à la fois artistique et commerciale que peut apporter l'auteur de théâtre. Et donc la figure de l'auteur, elle est souvent invoquée, y compris quand ça n'a rien à voir avec le contenu réel du film et que tout a été remanié. On trouve d'autres exemples un petit peu dans cette ligne-là, d'auteurs qui sont cités parce qu'ils ont quelque chose d'un peu star. Enfin, mon Tennessee Williams serait aussi un des exemples les plus frappants. Mais l'auteur est une façon de dire, voilà, on avait un vrai texte, on a un objet légitime, et en même temps, souvent, qui a eu du succès, comme si c'était la réconciliation du grand public et d'un public plus choisi.
Alors, ce qui est intéressant, vous employez le mot légitime. Ce qui est intéressant en anglais et dans un journal professionnel pour les exploitants, les distributeurs, qui est Variety, qui paraît toutes les semaines à Hollywood, depuis toujours, dans les 100 pages de ce journal, de cet hebdomadaire, il y a la rubrique legit. Ça veut dire légitime, et legit, c'est le théâtre. C'est-à-dire que les comptes rendus de pièces sont sous la rubrique legit. C'est-à-dire il y a un art légitime et puis un art bâtard qui est le cinéma.
Tout à fait. Et le fait que les revues professionnelles aient des rubriques dédiées au suivi de l'actualité du théâtre montre bien toute l'organisation industrielle des studios autour de ça. C'est-à-dire que c'est pas juste les auteurs de scénarios ou les réalisateurs qui se disent à titre individuel que tel ou tel sujet de théâtre les intéresse. C'est que c'est structuré de façon industrielle. Il y a une veille sur la production théâtrale qui est organisée par les grands studios et les grands producteurs hollywoodiens. Et ils se servent aussi des comptes rendus de la presse professionnelle pour savoir quels spectacles vont les intéresser, lesquels il faut s'empresser d'acquérir parce que c'est sans doute une bonne opération pour faire un film. Et donc il y a aussi toute une organisation autour qui peut interférer avec effectivement des décisions individuelles ou des partis pris d'auteurs.
On va revenir à Lubitsch parce que ça me semble un cinéaste extrêmement exemplaire des rapports cinéma-théâtre. Parce que Lubitsch, donc évidemment berlinois, venant en 1924, appelé par Mary Pickford pour travailler à Hollywood, qui tout de suite après Mary Pickford va vers la Warner pour tourner des comédies mondaines d'Oscar Wilde ou d'autres auteurs muettes. Il va devenir évidemment, au début du parlant, un metteur en scène aussi adaptant des pièces de théâtre qui sont souvent des auteurs hongrois, Fekete, Laszlo Biro, voilà, et en même temps, qui curieusement n'ont pas tellement de succès. C'est-à-dire qu'ils ont du succès sur scène, mais Lubitsch, je crois pas me tromper, sur tous les films qu'il a réalisés dans les années 30, deux seulement ont eu des bénéfices. Les autres n'ont pas atteint leur but commercial, ce qui est tout de même étonnant, alors qu'il était à un moment même le patron du studio. C'est un grand metteur en scène, c'est unique dans l'histoire de Hollywood, qui dirige un studio. Il a dirigé la Paramount pendant 2 ans. Et or, il n'arrive pas à capter ce public cinématographique, le public des campagnes, le public des petites villes, de la province, avec ces pièces qui sont justement filmées, mais qui sont des triomphes à Broadway.
Alors justement, je pense que c'est un sujet qui est passionnant sur la question de Lubitsch, parce qu'à mon avis, dans l'ensemble de ses sources, il y a à la fois des pièces qui ont été acclimatées, traduites et jouées en anglais à Broadway, et certaines ne l'ont peut-être pas été. Donc dans le détail, je ne sais plus lesquelles ne l'ont pas été nécessairement. Il faudrait peut-être regarder de plus près le lien entre le succès des films et le fait que les pièces aient été peut-être des pièces américanisées préalablement ou pas, parce qu'il y a aussi Broadway joue un rôle aussi de facteurs de traduction culturelle en quelque sorte pour des pièces étrangères qui ont une première version américaine par le théâtre avant d'arriver à Hollywood. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que Lubitsch connaissait au moins un peu le théâtre de Broadway sans y avoir forcément été metteur en scène lui-même, parce que lors de sa première arrivée aux États-Unis, il me semble vers 1920 ou 21, il a commencé en fait par faire aussi suivre toute une série de spectacles et rencontrer des producteurs de théâtre. Et alors, dans son cas, quand on regarde la façon dont on parle de lui dans son environnement professionnel, souvent dont les autres parlent de lui. Enfin, ça m'a beaucoup amusé de voir la façon dont il était systématiquement décrit comme trop sophistiqué. C'est too sophisticated. Enfin, donc, Lubitsch est vraiment considéré comme un cinéaste intellectuel, en fait, en particulier dans toute la décennie 1930. C'est peut-être ce qui lui donne une certaine liberté aussi. C'est-à-dire que puisqu'il s'adresse à des publics un peu choisis, il est perçu comme tel dans le milieu, on l'ennuie moins aussi avec des questions de censure que dans des très grosses productions qui sont surveillées d'extrêmement près.
Mais en même temps, Lubitsch va continuer sans cesse à adapter Broadway, parce que c'est une chose que l'importance de votre livre, Marguerite Chabrol, c'est que justement, c'est un sujet qui n'intéresse pas tellement Broadway, n'intéresse pas les historiens français ou même européens, parce qu'ils le connaissent mal. D'abord, il y a aussi ce préjugé, c'est un peu comme les chats et les chiens, il y a des gens qui sont pour les chats, d'autres qui sont pour les chiens. On remarque que les gens qui vont beaucoup au cinéma, souvent, ne vont pas au théâtre. Il y a bien sûr beaucoup d'exceptions, mais il y a ça. On aime le théâtre, on ne va pas beaucoup au cinéma, ou on aime beaucoup le cinéma et on ne va pas beaucoup au théâtre. Et c'est vrai que c'est un domaine que vous étudiez dans votre livre et qui est très, très en friche, parce qu'il n'y a pas de connaissance véritable de ce domaine. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Lubitsch, c'est qu'il fait échapper son cinéma au théâtre filmé, parce que ce qui a défavorisé et qui a d'une certaine façon jeté un discrédit sur le théâtre filmé, c'est qu'au début du parlant, les pièces de théâtre adaptées étaient souvent adaptées sans aucune recherche cinématographique. C'est-à-dire que le cinéma muet avait atteint, avec l'aurore, avec le vent, avec des films magnifiques, la foule de King Vidor, etc., avait atteint un degré extraordinaire d'excellence visuelle. Et voilà que ce cinéma est complètement détruit, fauché par la révolution du son. Et il y a une sorte de régression totale, puisqu'on en revient effectivement à mettre des micros et une caméra et on filme un texte comme au théâtre. Et donc il a fallu sortir de... Alors quelques cinéastes l'ont fait, comme Howard Hawks avec Scarface, ou en Allemagne Fritz Lang avec M, il y a bien sûr ou l'Atalante de Vigo, il y a eu des grands films parlants au début du parlant, mais au début il a fallu que le cinéma qui adapte le théâtre s'arrache tout de même à cette pesanteur théâtrale.
Alors, il y a une période qui est assez curieuse, en fait, aux États-Unis. C'est la période, en gros, qui commence, enfin, de 30 à 33, c'est-à-dire les toutes premières années de la décennie, où effectivement, on sait pas trop, on sait qu'il faut utiliser du théâtre, avec peut-être un préjugé moins fort qu'en France. Parce qu'en France, on sait que l'arrivée du parlant a suscité des débats extrêmement violents entre les pros et les anti-paroles, notamment sur l'argument du théâtre filmé. C'est-à-dire, la querelle du théâtre filmé, elle a sans doute une existence beaucoup plus forte dans la tradition critique française qu'elle n'en a dans les pratiques aux États-Unis. Et les films dont je voulais parler au début des années 30, ce sont souvent des films qu'on connaît plus tellement aujourd'hui, ou qui étaient pensés un peu sur l'idée qu'on filmait le théâtre littéralement. C'est-à-dire, il y avait un metteur en scène qui faisait la direction d'acteurs, qui était chargé de reprendre le concept du spectacle théâtral et de la mise en place telle qu'elle avait pu être faite à Broadway. Et un réalisateur photographe, en quelque sorte, qui est celui qui manipulait la caméra, et c'était pas la même personne. Et ça, ils en sont débarrassés assez vite. Au-delà de 33, on n'en trouve plus tellement des films comme ça, mais quelqu'un comme Georges Cukor a commencé sa carrière, enfin, il venait du théâtre, et il s'est retrouvé à faire la direction d'acteur sans jamais regarder par la caméra dans ses tout premiers films. Et puis finalement, ils ont effectivement trouvé une efficacité immédiate à l'idée que on pouvait s'inspirer du théâtre, mais qu'il s'agissait pas de faire du théâtre filmé, évidemment, et souvent les constructions de plans les plus élaborés, il y a des mouvements de caméra extrêmement sophistiqués dans une partie des films. C'est pas parce qu'on est en huis clos ou avec un texte extrêmement écrit et dialogué que la caméra n'intervient pas et que c'est pas du cinéma, bien sûr.
Alors, Marguerite Chabrol, on pourrait peut-être maintenant aborder cette façon qu'ont les auteurs de théâtre qui veulent intervenir dans les adaptations qui sont faites de leurs œuvres, qui voudraient avoir leur mot à dire, parce que parfois ils sont dépossédés. Ils sont dépossédés de leurs pièces. Donc il y a des auteurs qui interviennent et qui voudraient, de même que des acteurs qui sont de Broadway et qui voudraient interpréter leur rôle à Hollywood. Et c'est loin d'être toujours le cas. Vous notez dans votre livre que les trois fonctions importantes dans une pièce, c'est l'auteur de la pièce, les comédiens de la pièce et le metteur en scène de la pièce. Or, c'est rare que ces trois fonctions restent pendant la transposition à Hollywood.
Alors, c'est vrai que le premier film auquel on penserait, qui est Un tramway nommé Désir, est l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire que là, on retrouve un peu les mêmes, enfin, on retrouve la même équipe artistique, mais en règle générale.
Avec tout de même une exception, parce que
Vivian Leigh avait joué le rôle à Londres et pas
Jessica Tandy, parce que Jessica Tandy n'était pas assez connue du grand public pour qu'on la garde comme actrice principale pour le rôle
toujours,
de Blanche Dubois.
Des stars de cinéma
et donc toute l'équipe de Broadway a été conservée, évidemment, Kazan en particulier, metteur en scène de la pièce, mais pas Jessica Tandy. On a pris une actrice anglaise qui venait de jouer Tramway nommé Désir à Londres, quand même du théâtre. Sous la direction de Laurence Olivier. Oui.
Exactement. Et donc, en même temps, il y a l'idée qu'on reprend l'équipe dans ce film-là, ce qui n'est pas du tout le cas ailleurs. Alors, il y a d'abord, je pense, une question de périodisation historique, c'est-à-dire que les questions idéologiques étant vraiment très fortes et la censure fonctionnant à plein dans les années 30 et 40, en fait, vendre, pour un auteur, vendre son texte. Et en général, on vend ensemble le texte et la mise en scène. En fait, on vend un concept de spectacle dans les négociations qui sont assez rudes quelquefois. Quand on vend son texte, on autorise les producteurs de cinéma à faire ce qu'ils veulent avec. C'est-à-dire qu'il y a aucun, enfin, la notion de droit d'auteur, de protection du droit d'auteur, ou même de préserver des qualités artistiques ou littéraires est absolument pas en compte, en particulier dans les premiers temps. Ce qui fait qu'on peut trouver des pièces qui sont vraiment, comme je vous disais pour Noël Coward tout à l'heure, totalement réécrites. On dit que c'est la même pièce, mais en fait, il n'y a plus une seule réplique qui a quoi que ce soit à voir avec l'original. Et progressivement, il y a des auteurs qui sont un peu montés à la charge. Il y en aurait une première série pendant la guerre, des gens comme George Kaufman, qui est un des grands auteurs de, particulièrement de comédie, en fait, de Broadway, qui est aussi devenu scénariste à Hollywood, qui a essayé de défendre ses textes, et c'est passé de façon juridique, par un travail juridique, c'est-à-dire qu'il protégeait ses contrats pour essayer d'avoir un droit de regard sur le film, ce que les studios, donc Warner en particulier, avec qui il a beaucoup négocié, essayaient de refuser. C'est-à-dire, au contraire, les studios de cinéma se méfiaient des auteurs de Broadway. Et puis, il y a un grand déclic dans les années 50 avec des gens comme Tennessee Williams, justement, parce que Williams a beaucoup argumenté. Il a eu des très grandes correspondances avec les studios. Et c'est son succès populaire sur les scènes et devant, justement, des spectateurs en tournée, etc., qu'il utilisait comme argument pour convaincre les studios du bien fondé de ses demandes. Et ça a souvent marché. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de correspondances de Tennessee Williams où il explique qu'il refuse qu'on change sa pièce, non pas parce que c'est bien ou que ça correspond à un parti pris artistique, mais parce que les gens l'ont vu comme ça au théâtre et seraient étonnés qu'on ne leur montre pas les choses de la même façon dans un film. Donc pour des pièces, dès la Ménagerie de verre, mais après pour les pièces des années 50, on retrouve un peu... Voilà, brûlant, tout à fait. Donc les gens connaissent. Pourquoi est-ce qu'on changerait quelque chose que les gens connaissent ?
Alors, vous signalez aussi un détail très intéressant, c'est Joseph Mankiewicz, qui est producteur de Philadelphia Story, Indiscrétion en français. Il va à Broadway, il est le producteur, c'est Cukor qui dirige le film, mais il va à Broadway pour noter les répliques qui font mouche auprès du spectateur pour les conserver dans l'adaptation cinématographique.
Et il est pas le seul à faire ça, il y a plusieurs autres exemples, mais lui c'est un exemple assez intéressant, c'est-à-dire que l'idée c'est de travailler le comique par rapport au spectacle vivant, parce que on a les réactions des gens dans la salle. Et d'autres font ça sur la question du suspense, par exemple de regarder dans les mélodrames ou les pièces à suspense où les gens frémissent, où il y a une sorte de réaction dans la salle. Donc il y a aussi chez un certain nombre de producteurs et de réalisateurs à Hollywood l'idée que c'est une version de travail, que le théâtre fournit une sorte de première matrice en quelque sorte du film, qui leur fait économiser aussi un certain nombre de séances de travail ou de réflexion. Et certains reviennent même quelquefois aux sources. Par exemple, il me semble que c'est Billy Wilder pour Stalag 17. Ils avaient des problèmes pour réécrire le film. Ils sont retournés rechercher ce qui avait été fait pendant la phase qu'on appelle les try-outs, c'est-à-dire la phase de test d'une pièce avant qu'elle soit créée à Broadway. Et donc, ils se renseignent sur ces différentes versions et la façon dont le public réagissait à telle ou telle péripétie de la pièce.
Non, ce qui est peut-être intéressant à évoquer, c'est le changement qui s'opère à Broadway entre l'avant-guerre, disons, et l'après-guerre. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'auteurs de théâtre à succès dans les années 30 qui vont petit à petit disparaître de la scène, si j'ose dire, et vont être remplacés par une nouvelle génération d'auteurs dramatiques. Je pense évidemment à Tennessee Williams, à Arthur Miller, à William Inge et d'autres, Edouard Albee, qui vont être la source d'adaptation et d'adaptation par des metteurs en scène souvent très sophistiqués d'origine européenne, qui sont ceux qui vont bousculer le cinéma hollywoodien. Preminger, Wilder, Kazan, qui sont tous en fait à une mentalité plus européenne que les metteurs en scène hollywoodiens classiques comme John Ford, comme Howard Hawks, etc. C'est eux qui vont pousser le cinéma américain, justement on l'a évoqué au début de l'émission, contre le code de censure.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est très intéressant de le pointer comme ça, le fait que ce sont plutôt les gens d'origine européenne qui ont aussi une expérience du théâtre en
Mankiewicz.
Europe. Voilà. Mankiewicz, je crois qu'il n'a pas fait de théâtre en Europe, mais en tout cas, Preminger, avant d'être producteur et metteur en scène à Broadway, l'avait fait. Et qui considère sans doute que c'est, même si Broadway c'est du théâtre mainstream, c'est pas non plus un lieu forcément d'avant-garde à cette époque-là, c'est pas le off-Broadway encore, mais que c'est là qu'on peut faire des choses intéressantes, donc ils vont y chercher une source d'inspiration. d'inspiration. Et chez quelqu'un comme Preminger, ce qui est frappant, c'est que toutes ces tentatives, parce qu'il fait des films très différents quand on regarde tout ce qu'il fait dans les années 50, il n'est pas spécialisé dans un genre, par exemple, ou dans un créneau. Il utilise aussi bien la comédie que des films dramatiques, des films plus politiques. Enfin, et en fait, on peut souvent retracer l'origine de ces différents films qui ont quasiment chacun fait sauter un des maillons du code de production. On peut les retracer vers Broadway et trouver souvent des versions théâtrales qu'il a quelquefois sensiblement remaniées d'ailleurs. Ouais.
Alors on va écouter, ça va être une pause, la musique d'Alex North. Kazan a demandé à Alexandre de composer pour le cinéma, donc pour son adaptation de sa propre mise en scène de théâtre du Tramway nommé Désir. Il a demandé de composer une composition influencée par le jazz. C'est peut-être la première introduction vraiment du jazz, même si ce n'est pas du pur jazz, dans le cinéma hollywoodien, donc dans cette adaptation de Tramway nommé Désir, version cinématographique, avec cette musique d'Alex North.
Culture, projection privée, Michel Simon.
Voilà, donc il y a d'autres exemples de pièces très peu nombreuses qui ont été presque intégralement, qui ont conservé presque intégralement les participants de la production Broadway. Je pense à La Rose Tatouée, encore un Tennessee Williams, ou bien Miracle en Alabama, par exemple, d'Arthur Penn.
Miracle en Alabama, c'est un exemple intéressant parce que c'est un sujet qui est complètement atypique pour le cinéma à l'époque, parce que représente faire du handicap à un sujet dramatique, donc c'est le film qui reprend l'histoire d'Hélène Keller et de tout le processus thérapeutique et pédagogique par lequel son accompagnatrice va établir la communication avec elle. C'est un exemple intéressant parce que d'abord il y a une enfant actrice dont le nom m'échappe à l'instant,
Patty Duke, voilà,
Patty Duke qui du coup souvent le cinéma pour chercher des enfants acteurs va les trouver au théâtre. Il y a plusieurs autres exemples de ça. Et puis ce sont des configurations assez atypiques dont on a l'impression que quand elles ont fonctionné sur scène et que le cinéma n'a pas ses propres modèles, il peut les reprendre. C'est-à-dire le duo qu'elle formait avec Anne Bancroft sur scène représente un type de duo qui est pas très hollywoodien en soi. C'est pas glamour, c'est pas une histoire romantique. On est complètement à contre-courant des grands archétypes sur lesquels le cinéma s'appuie encore à cette époque-là. Donc très souvent, c'est quand on a affaire à des types de rôles qui n'entrent pas dans les canons des grands rôles imposés par les star systems hollywoodiens qu'on va pouvoir retrouver ces configurations reprises parce qu'elles ont fait leur preuve sur scène et qu'Hollywood n'a pas d'alternative. C'est-à-dire, on ne peut pas pratiquer ce que vous avez décrit tout à l'heure pour Vivian Leigh, c'est-à-dire on met quelqu'un qui est une star de cinéma à la place parce qu'il va falloir trouver un substitut plus grand public à ce qui a été proposé.
Elle avait tourné, bien sûr, Autant on emporte le vent.
Oui. Oui, tout à fait. Donc Vivian Leigh avait la légitimité pour jouer ce rôle de star de cinéma. Pour un film comme Miracle en Alabama, on est aussi à la fin de la période. Il commence à y avoir un certain assouplissement des pratiques. Et puis Arthur Penn est quelqu'un qui s'intéresse aussi de très près au théâtre dans son intégrité et pas simplement avec un regard de producteur hollywoodien.
Alors, Marguerite Chabrol, il y a aussi une chose que vous soulevez qui est intéressante parce qu'il y a un peu un cliché comme quoi le cinéma serait plus novateur dans la conduite du récit, par exemple, par rapport au théâtre. Vous montrez exactement que c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la moralité qui domine à Hollywood par rapport à Broadway, où il y a beaucoup moins de liberté par rapport au sexe, par rapport à d'autres sujets, mais aussi même dans la façon de conduire un récit. C'est-à-dire que le théâtre se permet des ellipses, se permet même des retours en arrière, des processus narratifs plus audacieux que Hollywood, qui cherche beaucoup plus la lisibilité.
Oui, ça, c'est assez frappant. Et c'est vrai qu'on a aussi, à cause de certains effets et genres qui ont popularisé les techniques comme le film noir, on se dit le flashback, c'est vraiment une modalité narrative hollywoodienne, etc. Et en fait, on peut en trouver... Alors, ça se fait aussi à peu près à la même époque. Donc, quelquefois, il ne s'agit pas forcément de dire qui a inventé la chose en premier, mais de comprendre que le milieu du théâtre et du cinéma, les deux s'observent un peu réciproquement. En tout cas, la complexité narrative est plus le propre du théâtre. C'est-à-dire, justement, on parlait de Miracle en Alabama, mais il y a aussi Mort d'un commis voyageur, où les personnages ont des hallucinations, donc il y a des effets de récits enchâssés, de situations dont on sait plus si ce sont des récits fantasmés ou réels, par exemple. Il y a toute une série de confusions sur le statut de l'histoire. Et à Hollywood, on voit que les producteurs se disent, il faut qu'on comprenne, il faut que ce soit clair. Donc, là, ils essayent de lever un certain nombre d'ambiguïtés. Et il y a d'autres exemples assez intéressants. Je pense aussi à des pièces un peu chorales dans leur structure, c'est-à-dire des pièces qui vont pas forcément mettre en valeur un ou un couple de protagonistes, mais vraiment essayer de caractériser un milieu. Je pense à un film comme Detective Story, histoire de détective en français, où Kirk Douglas fait un détective et on assiste à la vie dans le commissariat, et notamment à toute une série d'histoires secondaires qui ont rien à voir avec l'épisode principal. La pièce est extrêmement découpée, c'est-à-dire il y a du montage sur scène quasiment, on passe de tel fait divers à tel autre par bribes, et il y a une construction fragmentée qui est vraiment très intéressante parce qu'on met un certain temps à comprendre quelle va être l'intrigue centrale, alors que le film clarifie les choses d'emblée et a tendance à éliminer ce qui est assez réaliste en fait dans la façon de construire l'action sur scène.
Alors je voudrais revenir un peu sur ces auteurs de théâtre, parce que il semblerait, d'après votre enquête, que les pièces de théâtre des années 30 évitent les choses dramatiques, les choses graves, sans doute à cause de la dépression, et que les gens veulent se distraire, veulent oublier les problèmes, et que tous ces auteurs à succès, les Garson Kanin, les Philip Barry, les George Axelrod, George Kaufman, tous ces gens-là, vont peu à peu s'effacer au profit d'une nouvelle génération que j'ai évoqué, des gens justement comme Arthur Miller, comme Tennessee Williams, etc., qui vont, comme William Inge, qui vont donner matière justement à des films plus adultes, ou en tout cas qui traitent de sujets de société beaucoup plus graves.
Alors c'est vrai que vous faites une corrélation qui est très importante entre la question du genre et la question de la maturité des pièces. C'est-à-dire qu'effectivement, enfin, si on veut schématiser un peu l'opposition entre les deux périodes, Broadway dans les années 30, ce serait plutôt de la comédie sophistiquée avec des formes assez légères et qui joue sur les conventions de la comédie de mœurs. Et on aurait plutôt une dominante mélodramatique et dramatique après la Deuxième Guerre mondiale, avec des auteurs dont on reconnaîtrait davantage le sérieux du sujet. Ce qui est assez intéressant, c'est que d'abord ce sont effectivement les dominantes, mais il y a des exceptions parce qu'il y a il y a des courants dramatiques très présents à Broadway dès les années 30. Simplement, ils n'intéressent pas vraiment le cinéma. Donc les dramaturges comme Clifford Odets, par exemple, qui ont écrit un certain nombre de pièces, y compris des pièces politiques à Broadway, quand leurs films sont adaptés, ça devient plutôt des mélodrames un peu aseptisés. Et il y a un film qui m'avait beaucoup intéressé, qui est Victoire sur la nuit, Dark Victory, avec Betty Davis, parce que c'est un film où, pour la première fois quasiment dans cette période, on voit l'héroïne dans une situation tragique, puisqu'elle a une maladie incurable, et donc on sait qu'elle va mourir dans un récit qui est vraiment de l'ordre du tragique. Ce qui à l'époque est très très décalé en fait par rapport au type de pièces qui sont plutôt adaptées au cinéma, et tous les discours autour de la production de ce film se demandent si c'est bien raisonnable d'aller montrer aux spectateurs de présenter un récit qui serait aussi déprimant et où la morale est absolument pas satisfaisante à la fin, enfin ni celle du divertissement, c'est pas parce qu'elle est un peu pénible, un peu caractérielle qu'il faut qu'elle meure dans ces conditions-là à la fin du film. Et le film est jugé comme trop précoce en quelque sorte en 39, alors qu'effectivement dans l'après-guerre la logique tragique va devenir la norme de la plupart de ces adaptations.
Alors le rapport auteur de théâtre et puis l'adaptation cinématographique, ce qui est intéressant aussi, c'est tout ce qui se passe autour des comédiens, c'est-à-dire une sorte de, peut-être même de rivalité entre des types de personnages qui sont l'un du côté cinéma, l'autre du côté théâtre. Par exemple, je pense à la relation que vous établissez, Marguerite Chabrol, entre Betty Davis, donc grande actrice hollywoodienne à la Warner, et puis Tallulah Bankhead, qui n'arrivera jamais à devenir une vedette en Californie et qui est une des reines du théâtre de Broadway.
Oui, alors il y aurait, je pense, encore beaucoup à faire dans ce sens-là, mais c'est vrai que quand on possède des éléments, alors c'est pas toujours évident à trouver, parce que savoir comment jouer un acteur au théâtre dans les années 30, il n'y a pas de film, il n'y a pas de captation, donc ça demande un peu de reconstitution, donc de s'appuyer aussi sur des descriptions, sur des versions radiophoniques pour avoir une idée de leur voix et de la façon dont il parlait. On a une bonne idée de la diction, en fait. Pas forcément de jeu de scène, mais de la diction. Et donc, il faut faire une sorte de puzzle. Donc, c'est pour ça qu'il y aurait sans doute beaucoup d'autres choses à pointer dans cette direction-là. Mais pour Bette Davis, on peut quasiment le prouver, oui, qu'elle a emprunté, y compris à d'autres, d'ailleurs, actrices de Broadway, mais particulièrement à Tallulah Bankhead, qui était une actrice extrêmement démonstrative, extrêmement ironique, en fait. Sa grande spécialité, c'était un registre d'humour assez cynique et très provocateur, qui fait que... Alors, elle a fait quelques films, mais plutôt des seconds rôles, où elle a toujours, par exemple, dans Lifeboat de Hitchcock, le titre français,
c'est Lifeboat.
Donc, elle a un rôle qui est typique de l'aristocrate de Broadway, en quelque sorte, enfin, un personnage très typé, côte est, etc., alors qu'elle venait du sud des États-Unis. Et Davis lui a emprunté beaucoup de choses très techniques. C'est-à-dire, le jeu de Bette Davis, il est assez fascinant parce qu'il y a des choses qui viennent de sa formation en danse avec Martha Graham, il y a des choses qu'on lui reconnaît comme très typiques et personnelles, mais il y a aussi des empreintes techniques à des actrices, donc, soit Bankhead, justement, pour les rôles qu'elle a repris, comme aussi dans La Vipère, où je pense aussi quand elle a joué le rôle d'Elisabeth Ier d'Angleterre. En fait, quand on regarde les photos de l'actrice Lynn Fontanne qui jouait le rôle sur scène, toute l'approche du maquillage, par exemple, et du vieillissement, puisque Davis se fait une espèce de masque, en fait, qui est très semblable à celui qu'avait Lynn Fontanne sur scène, qui avait créé le rôle quelques années avant.
Ce qui est intéressant aussi, c'est la façon dont certaines comédiennes qui n'arrivent pas à avoir vraiment un succès à Hollywood. Je pense que ça peut paraître étonnant aujourd'hui, mais dans les années 30, c'était un peu le cas de Katharine Hepburn, qu'on définissait par box office poison, un poison pour le box office, c'est-à-dire que ces films ne marchaient pas, et qui relancent leur carrière en revenant à Broadway. Oui.
Alors, Hepburn, c'est un cas intéressant parce qu'elle a mis, elle a mis toutes les années 30 à comprendre, quoi, et à maîtriser en quelque sorte le fonctionnement de ça. Elle en avait l'intuition dès le départ parce qu'elle fait dès les débuts de sa carrière beaucoup d'allers-retours, y compris en encaissant quelques flops sur scène, un peu mal maîtrisés. Mais c'est quelqu'un qui maîtrise les deux univers, qui a une formation théâtrale aussi, et un très fort ancrage sur la côte est, qui est non seulement social mais aussi artistique, et qui du coup fait de Broadway une espèce de refuge en matière de en période de difficulté par rapport à Hollywood. Et du coup, elle, toute l'histoire de la production de Indiscrétion, donc Philadelphia Story, a le même titre pour la pièce et pour le film, c'est l'histoire d'une sorte de reconquête de sa place en tant que vedette de premier plan au cinéma, en passant par la maîtrise des rouages de la production théâtrale. C'est-à-dire qu'elle se fait écrire une pièce sur mesure, qui est une pièce assez ironique, une espèce d'autoportrait qui prend précisément pour objet ce qu'on lui reproche, c'est-à-dire d'être arrogante, antipathique. Et donc elle se met en scène comme ça, elle se fait mettre en scène avec des codes très théâtraux. Par exemple, c'est une pièce où elle a beaucoup travaillé la question de l'entrée en scène. Elle se disait, les gens me détestent, donc il ne faut pas que je fasse une entrée de diva trop spectaculaire, ça va les énerver encore plus. Donc la pièce est écrite avec des jeux de scène qui prennent en compte son image de star de cinéma un peu déchue. Et finalement, c'est un succès tel qu'elle réussit à le vendre sans aucun problème à la MGM et en faire un film qui est un triomphe commercial.
Alors, il y a aussi une actrice très intéressante aussi par son jeu à la fois au théâtre et au cinéma. Et je trouve que d'ailleurs, votre livre essaye de tuer un peu ce cliché qu'il y aurait tellement de différences entre le théâtre et le cinéma. C'est-à-dire que, Alain René, évidemment, grand amateur de théâtre, disait que finalement le cinéma revenait à sa source, qui était le théâtre. Bon, ça peut se discuter, mais en tout cas, dans le cas de Mae West, par exemple, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une comédienne qui a un pied dans le théâtre, un pied dans le cinéma, avec des adaptations. Alors, elle aussi, elle affronte la censure, parce que c'est tout de même, Mae West, avant 1934, avant le code de censure, c'est tout de même des pièces qui étaient extraordinairement subversives du point de vue de la sexualité. Et elle va avoir beaucoup de mal à continuer à Hollywood.
Alors, moi, je suis assez d'accord avec Alain René. C'est qu'effectivement, mon propos, c'était pas de montrer la différence, mais plutôt les continuités. Et c'est aussi sans doute parce qu'elle a cette place-là au théâtre que Mae West a pu aussi faire un certain nombre de films avec un statut très particulier. Alors, elle a beaucoup de caractéristiques très originales parce qu'elle vient de Brooklyn. C'est pas la haute société new-yorkaise. C'est quelqu'un qui vient plutôt de milieux modestes. Elle parle en argot. Elle parle pas une langue qui est perçue comme très érudite ou très sophistiquée. Au contraire, ce serait presque la vulgarité théâtrale c'est pas un archétype très, très répandu. C'est le sien. Et c'est aussi quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la culture noire, notamment de Harlem, et qui donc, dans ses spectacles, essaye déjà de réutiliser des éléments de cette connaissance qu'elle a, de son entourage, etc. Donc elle fait des spectacles qui, par ailleurs, sont la limite déjà pour Broadway. C'est-à-dire qu'elle a elle-même été... Enfin, je disais, il y a une liberté d'expression au théâtre, mais elle a été censurée au théâtre précisément parce qu'elle a rencontré la censure des États et de la ville qui ont fait fermer un certain nombre de pièces, et elle a aussi quelquefois fait ça pour chercher le parfum de scandale. Donc elle a une réputation qui la précède. Et c'est vrai que les gens qui ont étudié un peu le système de censure au cinéma ont pu observer qu'elle avait bénéficié d'une sorte de régime d'exception. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi un certain nombre de ses films ont été faits, y compris après 34. Mais bon, avant 34, il y a encore une forme de flottement dans l'application du code de production, ce qui explique que ces films aient pu être faits. Mais très souvent, il y a tout un jeu de connivence avec une partie du public quand on regarde la façon dont sont promus et présentés les films de Mae West. C'est-à-dire qu'il y a des interdits. La censure dit, par exemple, il y a une pièce qui s'appelait Diamond Lil, dont le titre faisait partie des titres interdits. Aucun studio n'avait le droit, selon le bureau de Hayes, d'utiliser ce titre pour faire un film parce que c'était jugé trop subversif, trop provocateur. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont débrouillés pour truffer un certain nombre d'autres films de Mae West d'allusions à ce rôle-là. Donc, par exemple, le mot diamant, dans toutes les publicités des films de Mae West, va renvoyer à un objet interdit par connivence avec les spectateurs. Donc, il y a tout un jeu de paratexte autour des films pour que les gens aient bien compris qu'il s'agissait d'elle et qu'on renvoyait toujours à ce passé sulfureux.
Alors, dans le cas de l'hybridation, disons, de Broadway et de Hollywood, il y a ce phénomène tout à fait étonnant qui est le phénomène de l'actor studio, qui est alors un phénomène proprement new-yorkais, créé par Ilia Kazan, par Sheryl Crawford, donc à Broadway, enfin près de Broadway, qui va apporter un nouveau style de jeu avec Marlon Brando, Paul Newman, Montgomery Clift et avant eux John Garfield, et qui curieusement, alors que c'est vraiment la modernité la plus complète, va prendre racine à Hollywood, et le cinéma hollywoodien dans les années 50 va utiliser énormément de comédiens qui viennent de l'acteur studio, Marguerite Chabrol.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, ils viennent de... Quand ils font la troupe qui fonde l'acteur studio émane en partie du group theater, c'est-à-dire les gens qui, dans les années 30, représentaient une sorte de consortium, d'association, qui était la gauche du théâtre new-yorkais. Ils ne voulaient pas d'affiliation politique, mais ils voulaient traiter des sujets sociaux au théâtre. Et Kazan était dans ce groupe-là. Et c'est vrai que ce sont ceux qui avaient traité les sujets les plus difficilement adaptables. L'auteur Clifford Odets, dont je parlais tout à l'heure, avait écrit des pièces qui n'avaient pas été adaptées, par exemple sur les grèves de chauffeurs de taxi, des pièces à vrai sujet social qui étaient jugées complètement hors sujet pour le cinéma. Donc tous ces gens qui étaient un peu, enfin qui n'avaient pas de lien évident, ou qui n'étaient pas une manne potentielle dans les années 30, sont devenus effectivement, avec l'acteur studio et le fait de trouver cette nouvelle génération d'acteurs, tout d'un coup, au contraire, le filon dont Hollywood s'est emparé dans les années 50. Alors, il y a peut-être des explications évidemment liées à l'identité de ces acteurs et à cette génération, parce que ce sont des acteurs qui ont des physiques de stars de cinéma aussi. C'est-à-dire le critère de l'apparence est quand même aussi un critère important. Et puis, il y a eu des phénomènes, effectivement, comme Brando, qui était déjà une star au théâtre avant d'être appelé à Hollywood. C'est-à-dire, il paraît qu'il est souvent décrit dans les témoignages sur ses premiers rôles dans les années 40 sur scène à Broadway comme fascinant les foules il volait la vedette des rôles principaux, même quand il avait des seconds rôles à ses tout débuts. Donc, il y a aussi visiblement des personnalités dont le magnétisme en contexte de spectacle vivant a passé le cap de l'écran, ce qui n'était pas forcément le cas dans la première vague du début des années 30, où les grands acteurs de théâtre ne sont pas tous aussi significativement devenus des stars de cinéma.
On peut penser aussi que l'arrivée de la psychanalyse en force dans le paysage intellectuel américain après la guerre, puisque Freud disait « je leur ai apporté la peste », donc la psychanalyse qui a infiltré le roman noir et le film noir, avec justement toutes les anxiétés de l'après-guerre, etc., a facilité aussi ce jeu névrotique, très psychanalytique, de aussi bien de James Dean que de Paul Newman, que de Montgomery Clift, que de Kazan, que de Brando.
Oui, et puis c'est lié à une évolution des sujets, c'est très juste cette histoire de la psychanalyse, mais finalement les pièces de genre qui sont adaptées dans les années 30, justement, sont des pièces de genre, c'est-à-dire qu'elles obéissent à un certain nombre de règles qui sont un peu différentes au théâtre et au cinéma, mais qui malgré tout fonctionnent parallèlement. Et l'introspection n'est pas forcément la figure phare du théâtre dans les années 30. Le théâtre est assez narratif aussi. Alors que on voit effectivement émerger avec cet intérêt pour la psychanalyse et cette nouvelle génération d'acteurs, une autre façon de jouer, parce qu'on joue plus la même chose exactement. C'est-à-dire on joue aussi des formes d'introspection, on joue des processus psychologiques beaucoup. Et effectivement, il y a une rencontre entre les thèmes et la façon de les incarner à l'écran.
Enfin, Kazan disait lui-même, qui avait fondé l'Acteur Studio, que en fait, les grands acteurs américains, les Gary Cooper, les Henry Fonda, les James Stewart, ils utilisaient la méthode comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. C'est-à-dire qu'en fait, ils allaient chercher dans leur jeunesse, dans leurs expériences amoureuses, les expériences traumatisantes, etc., des aides pour interpréter leur rôle. Donc il y a peut-être pas non plus, là encore, un fossé aussi grand entre l'acteur de l'Acteur Studio et puis l'acteur hollywoodien classique.
Et puis on pourrait trouver des précédents sans doute. C'est-à-dire que certains éléments des techniques de l'Acteur Studio sur la façon de procéder, la façon de jouer, la façon de mobiliser des émotions peuvent sans doute se trouver chez d'autres acteurs de la fin des années 30 par exemple, où la construction du personnage passe aussi par des formes de caractérisation très psychologique. La description des états, de la succession des états du personnage par exemple, peut se trouver dans des exemples antérieurs. Même chez Bette Davis, je pense qu'on pourrait trouver des choses étonnamment proches, des façons de faire, alors qu'elle n'est pas du tout de la même famille artistique.
Alors Marguerite Chabrol, pour terminer, peut-être on pourrait alors évoquer le nouveau cinéma américain depuis 1970, grosso modo depuis 45 ans, marqué par des gens comme Scorsese, comme Coppola, comme Cimino, comme d'autres, mais qui vraiment tourne le dos. C'est-à-dire que l'influence théâtrale est beaucoup moins évidente. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr encore des adaptations de pièces de Broadway, mais ce nouveau cinéma hollywoodien n'est plus du tout dans cette recherche des années 50, avec justement des gens comme on les a cités, comme Preminger ou Wilder ou Mankiewicz ou Kazan, qui partaient du théâtre.
Alors c'est un sujet qui est passionnant, je pense, parce qu'il faudrait peut-être chercher d'autres facteurs pour contribuer à l'expliquer. Mais ça montre effectivement d'une part que le théâtre était un pilier du système classique. Peut-être aussi parce qu'il y a moins besoin d'aller chercher, dans l'espèce de vent de liberté qu'il y a avec le nouvel Hollywood et le renoncement aux pratiques anciennes. Le théâtre ne joue plus le même rôle. Il y a peut-être plus besoin d'aller chercher une réserve de sujets qui pouvaient représenter des façons de lutter contre le code de production dès lors qu'il n'y a plus de code de production. Donc peut-être que la nécessité est moins forte. Et puis il y a aussi sans doute le fait que le théâtre n'offre plus la même chose. C'est-à-dire que Broadway est aussi un lieu qui évolue. Et ça correspond à la période où Broadway se scinde entre le in et le off, et des spectacles qui sont de plus en plus commerciaux, avec là aussi la dominante de spectacles très grand public. Ça devient le lieu du tourisme international progressivement dans les années 60. Et puis en parallèle, le off devient un lieu de création extrêmement indépendant et avant-gardiste, qui du coup... Alors il faudrait regarder les connexions entre le off-Broadway et justement et le nouvel Hollywood, qui sont sans doute à explorer de plus près. Mais en tout cas, il y a une restructuration aussi du côté du théâtre qui fait que les cartes sont complètement rebattues. En revanche, dans un certain nombre de films plus récents, on voit revenir de temps en temps, un peu de façon nostalgique, je pense à quelqu'un comme Woody Allen, qui est une espèce de nostalgique de cette période-là. Ces films sont truffés de références aux pratiques que je décris là, c'est-à-dire des choses qu'on trouve dans les années 30 aux années 50. Et les films sont complètement inscrits dans cette tradition-là, donc ce qui serait une sorte de cinéma indépendant aujourd'hui, en fait très classique dans sa forme et dans son héritage, par exemple.
Mais Woody Allen n'a pratiquement pas, enfin si, il y a eu deux exceptions, mais adapté de pièces de théâtre.
Non, je crois pas. Mais en tout cas, ces films sont bourrés de références. Coup de feu sur Broadway, par exemple, c'est vraiment un film qui est complètement installé dans les processus d'échange qu'il y a à l'époque classique.
Votre livre est très riche, on a pu qu'aborder un certain nombre de points. En particulier, ce qui est très intéressant aussi, c'est comme vous montrez le déplacement du décor, par exemple. Il y a des pièces, des films comme Street Scene de King Vidor, où on reprend intégralement le décor de Broadway. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une transposition terme à terme ou les coiffures, les costumes qui vont être repris également dans les films.
Oui, alors je vous disais tout à l'heure, quelquefois ils réécrivent intégralement les pièces et il ne reste plus une seule réplique. En revanche, le théâtre est un modèle visuel extrêmement fort et on peut le voir assez facilement, y compris parce que maintenant sur Internet, grâce au site des grandes bibliothèques, on peut trouver des photos de théâtre de cette période-là. On se rend compte qu'il y a quelquefois un mimétisme extrêmement troublant dans la pensée de l'image, les éclairages aussi. Les éclairages de théâtre expliquent une partie de ce qui se faisait au cinéma, même si c'est obtenu avec des techniques différentes et avec évidemment des choses qui sont liées à la position et au mouvement de la caméra. Mais en tout cas, c'est aussi, quand je disais tout à l'heure, on vend un concept de spectacle, c'est-à-dire la production théâtrale, c'est une pièce déjà incarnée, déjà mise en scène avec un univers de référence et pas simplement un récit.
Merci beaucoup Marguerite Merci. Chabrol. Donc je rappelle votre livre De Broadway à Hollywood aux éditions du CNRS. Et dans quelques instants, ce sera le conseil de la semaine. Le conseil de la semaine, c'est un livre de Olivia Rosenthal, romancière connue, que j'avais invitée déjà pour parler de Ils ne sont pour rien dans mes larmes, donc qui sort un nouveau livre aux éditions Verticales, Toutes les femmes sont des aliens. Alors c'est un livre absolument réjouissant, merveilleux, j'ai lu ça avec beaucoup beaucoup de plaisir. C'est suivi de Les oiseaux reviennent et de Bambi et compagnie, parce que en fait c'est un triptyque sur une lecture très personnelle. Vous racontez merveilleusement les films, parce qu'à la fois c'est très fidèle à ce que les films sont, et en même temps c'est une interprétation très très personnelle. Toutes les femmes sont des aliens, bon là c'est clair, il s'agit de la tétralogie des aliens, quatre metteurs en scène différents à partir du premier film de Ridley Scott avec Sigourney Weaver, qui est le chaînon non pas manquant, mais au contraire le chaînon qui relie ces quatre films, et puis l'alien, l'horrible bête. Voilà, ce sont les deux personnages qui sont en permanence dans les quatre parties. La deuxième partie, Les oiseaux reviennent, il s'agit d'une lecture très personnelle du film d'Hitchcock. Et enfin, Bambi et compagnie, des souvenirs d'enfance, donc sur des films comme Le livre de la jungle, comme Bambi, que vous analysez également de façon, alors là, cette fois-ci, très sévère. Alors, Olivia Rosenthal, peut-être déjà ce titre. D'abord, vous dites, on va au cinéma pour se reposer. Mais en même temps, vous reposez, mais vous travaillez aussi beaucoup sur ces films que vous aimez.
Oui, en fait, c'est pas vraiment un repos d'aller au cinéma, parce que il y a l'esprit se met en marche et on commence à, c'est la machine interprétative dans notre tête qui se met en marche quand on va au cinéma. Donc je dis qu'on y va pour se reposer, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Et de toute façon, le principe du livre, c'est aussi de proposer des vérités qui sont tout le temps contestable et même contesté par le personnage lui-même, mais en tout cas d'être dans cette démarche interprétative. En fait, c'est un personnage qui ne cesse d'interpréter ce qu'il voit, et je crois que quand on va au cinéma, c'est ce qu'on fait, quoi. En fait, on interprète constamment les images qu'on voit, on refait des films dans notre tête, et enfin bon, on a tous cette expérience assez simple d'aller au cinéma et de raconter ensuite les films qu'on a vus à quelqu'un d'autre et de se constater que l'autre n'a pas du tout vu le même film que nous. Et moi, c'est ça qui m'intéressait, c'est cette différence qu'il y a en fait dans les manières de raconter, c'est-à-dire que chacun a dans sa tête un film qui n'est pas le film que l'autre a vu, et c'est ce que j'ai essayé de raconter à travers ces films-là, Alien et les autres.
Alors justement, le chat joue un rôle très important dans votre lecture de Alien.
Oui, mais c'est pas moi, c'est vrai. Enfin, je veux dire, il y a un chat qui le chat dans Alien, c'est le premier qui voit la bête. Et même, on peut dire que c'est dans les yeux du chat que la bête apparaît dans sa pupille. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on commence à raconter un film, bon, on dit « Ah oui, alors il y a ça », et puis brusquement, on dit le mot « chat », par exemple. Et là, on se souvient des images, en fait, dans lesquelles le chat apparaît, et ça produit des digressions, parce que « Ah oui, il faut que je vous parle du chat, j'avais oublié de vous parler du chat, mais alors le chat, il y a ça », et ainsi de suite. Donc en fait, les images ont une faculté aussi Enfin, elle produit sur nous des effets de fascination, et donc elles reviennent. C'est aussi pour ça que j'ai appelé le deuxième texte « Les oiseaux reviennent ». Parce qu'au fond, ce que j'avais envie de travailler, c'est la manière dont les images restent dans nos têtes, la manière dont les images construisent notre mémoire, la manière dont elles entrent dans notre mémoire, de sorte qu'on ne sait plus si c'est des films qu'on a vus ou si c'est des souvenirs, en fait. Et presque, bon, alors pour Alien, j'espère qu'on arrive à distinguer quand même, parce que si on pense que Alien est un souvenir, c'est un mauvais souvenir. Mais globalement, je crois que c'est important de, enfin, j'avais envie, en tout cas, de travailler cette zone intermédiaire entre la mémoire visuelle de film et la mémoire personnelle. C'est ça que j'avais envie de faire.
Alors, sans déflorer votre film, parce qu'il faut le lire pour savoir pourquoi les femmes sont des aliens, mais tout de même, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Parce que c'est vrai que la femme, elle est plus intelligente que les autres membres de l'équipage, puisque au départ, elle refuse que de laisser rentrer l'alien dans le vaisseau. Et alors que finalement, tout le monde va mourir, sauf elle.
Voilà, donc elle est une alien parce qu'elle est différente. Donc d'abord, c'est une femme soldat. Donc habituellement, on n'a pas l'habitude de voir des femmes soldats dans les films... et en particulier dans les films américains. Je parle là des années 70, hein, c'est plus... elle est une alien parce que... donc ce que raconte le film, c'est que elle devient une alien. C'est ce qui se passe, en réalité. Donc, au sens strict, elle est une alien parce qu'elle porte le monstre. Et puis, si on essaye de travailler un peu cette métaphore, elle est aussi une alien parce que... justement, elle a la capacité de mettre au monde ce que les hommes ne peuvent pas faire. Enfin, voilà, il y a tout un... J'ai essayé de travailler ce réseau, si on peut dire, qui concerne les relations entre les hommes et les femmes dans les films, et dans les films américains les plus hollywoodiens possibles, et d'essayer de voir comment, même dans les films hollywoodiens, les plus classiques, on peut renverser la hiérarchie entre les hommes et les femmes, par exemple. On peut contester les discours dominants. On peut tout faire à partir du moment où on s'amuse à interpréter. Et en même temps, c'est un jeu, c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu ludique dans cet exercice. Mais en même temps, je crois assez à ce que je raconte. C'est pas, enfin, je prends ça au sérieux, c'est-à-dire.
Ah ben on y croit aussi. On
ah bon,
y croit
c'est
aussi.
Bien alors.
Alors les oiseaux reviennent. Alors là, c'est merveilleux parce que vous attendez pendant 20 minutes hein, parce que vous espérez qu'un revirement brutal permettra au couple disparu, James Stewart et Kim Novak, donc de Vertigo, ou à la rigueur. Cary Grant et Grace Kelly La Main au Collet, de se substituer à ces acteurs insipides que sont Rod Taylor et Tippi Hedren. C'est-à-dire, vous voudriez vraiment que, au milieu du film, ça change de comédien.
Bah, c'est-à-dire, c'est que je crois que la première fois que j'ai vu ce film, c'était pas ces acteurs-là qui jouaient. Et donc, je comprends pas comment c'est possible que d'autres acteurs aient été substitués à ces acteurs-là. Et donc, ça raconte aussi que, bah oui, les souvenirs transforment radicalement les choses, parce que il est vrai que dans mon souvenir, c'était pas ces deux acteurs-là qui jouaient. Et donc, le moteur de ce texte, c'est de raconter cette déception, cette frustration même, et de voir comment finalement être frustré, c'est assez utile aussi. Parce que ça permet de se mettre aussi en marche pour réfléchir à bon bah alors pourquoi est-ce qu'il a choisi ces acteurs-là, où sont passés les deux autres, à quoi ça sert de mettre Tippi Hedren à la place de par exemple de Ingrid Bergman, enfin, et finalement on se rend compte que ça a des fonctions et ça donne du sens en fait à ce film d'avoir choisi ces acteurs-là plutôt que les deux autres.
Et en donc tout cas, c'est ça. Vous confirme que Rod Taylor et Tippi Hedren sont bien.
Voilà. Enfin... Alors je verrai, parce que peut-être que dans la troisième fois où je verrai le film, peut-être que je vais croire que c'est Tippi Hedren et Rod Taylor, et je vais me rendre compte que c'est encore deux autres. Donc je me méfie un petit peu de ce qui peut arriver dans la suite de mes aventures avec le cinéma. Hein.
Alors Bambi, là vous n'êtes pas la seule, c'est votre premier traumatisme au cinéma. Le nombre de gens qui citent Bambi comme un choc qui quasiment les aurait dégoûtés même d'aller au cinéma, c'est Bambi.
Oui, ça c'est. J'ai fait l'expérience. C'est une expérience sociologique d'interroger les gens et de voir que Bambi est un film traumatique parce que la mère meurt. Et en fait, il y a une expérience assez étrange, c'est qu'on croit que la mère meurt très vite. Enfin, moi, j'avais un souvenir de ce film où la mère mourait dans les trois premières minutes. Alors que quand on revoit le film 35 ans plus tard, et quand je dis 35 ans, c'est pour me rajeunir. On constate que la mère elle est là pendant au moins le premier tiers du film. Donc ça raconte, donc déjà on a une relation à la durée qui est transformée. Et il y a une autre chose qui est très intéressante dans ce film et qu'on oublie assez vite, c'est qu'en fait Bambi va très bien aussi après la mort de sa mère, et même peut-être il va mieux. Et du coup, en tout cas, il s'en sort très bien et il arrive à faire son éducation, etc. Donc, j'en conclus que sans doute Walt Disney voulait nous raconter quelque chose sur le fait que de temps en temps, il faut que les mères meurent pour que les enfants arrivent à vivre.
Donc c'est oui, ça, c'est subversif. On peut vivre ça, sans mère.
Et
venant,
même,
de, venant de Walt ouais. Disney, c'est étonnant. Merci beaucoup, Olivia Rosenthal. Je rappelle donc le titre de votre livre « Toutes les femmes sont des aliens ». Suivi de Les oiseaux reviennent et Bambi et compagnie aux éditions Verticales. C'était Projection privée, une émission de Michel Simon, réalisée par Laetitia Coya et préparée par Sylvia Favre. À la prise de son aujourd'hui, Clément Daté et Gilles Manet. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.com, site où vous pouvez également retrouver toutes les informations concernant cette émission. Et dans quelques instants, ce sera Une vie, une œuvre par Perrine Kervran.